franceinter.fr.
À la une aujourd'hui, quand la science s'intéresse au chalutage en eau profonde.
Si l'homme s'est longtemps contenté de pêcher le poisson dans les eaux de surface, l'épuisement des ressources a conduit l'industrie à se tourner vers des profondeurs pouvant atteindre 2000 mètres. Les navires-usines employées mesurent jusqu'à 240 mètres de long, contre 20 à 30 mètres pour un chalutier traditionnel, et peuvent embarquer jusqu'à 14 000 tonnes de poissons. Les écologistes comparent donc la capture en eau profonde à une exploitation minière plutôt qu'à une activité de pêche. Là où leur filet passe, tout trépasse.
Deux études parues la semaine dernière et puis en juin dernier apportent aujourd'hui des éléments scientifiques solides contre les chalutages profonds. Des résultats intéressants dévoilés au moment où les négociations européennes sur les quotas de pêche vont commencer. Et puis à trois mois aussi de la conférence pour le climat qui s'ouvrira à Paris en novembre prochain. Pour parler pêche et climat, nous recevons aujourd'hui Claire Nouvian, directrice de l'association Bloom pour la préservation marine. Et par téléphone depuis Montpellier, Philippe Curie, chercheur et représentant européen pour l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Philippe Curie, la première publication est écossaise et ses conclusions sont plutôt claires. Au-delà de 600 mètres de profondeur, la pêche au chalut devrait être tout simplement interdite.
Mais oui, ce papier est d'un intérêt fondamental. Il nous apporte des résultats et puis des informations qui sont tout à fait précieuse et important et surprenant sur le monde profond. Parce que vous savez, on a cet a priori que quand on va descendre dans les profondeurs des océans, la vie va se raréfier. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une chose très simple, et on se demande pourquoi ça n'a pas été fait plus tôt, mais bon, voilà. Ils ont étudié des campagnes de chalutage, des statistiques de pêche, entre 250 et puis dans le monde très profond, 1500 mètres. Et puis les résultats, ils sont éclairants. Ils sont éclairants et ils sont surprenants. C'est que la biodiversité en poisson, elle s'accroît entre 400 et 1000 mètres. Et elle s'accroît significativement puisque quand vous descendez de 100 mètres, vous trouvez 18 espèces additionnelles tous les 100 mètres que vous allez en profondeur. Donc ça, c'est je dirais une première quantification de cette richesse des milieux profonds. Et en plus, cette étude, c'est complété par une étude économique tout à fait intéressante pour montrer que dès qu'on descendait en dessous de 600 mètres, on détruisait beaucoup de raies et de requins qui sont pas commercialisés et que le profit commercial qu'on pouvait tirer de ces zones de chalutage en dessous de 600 mètres, elle décroissait rapidement. Donc c'est, je dirais, ce papier, cet article qui est publié dans une grande revue, il nous dit clairement qu'il faut préserver cette diversité à partir de 600 mètres. Et vous savez, il y avait des discussions sans fin, mais aussi sans fondement, sur ces limites du milieu profond.
Alors justement, des discussions sans fin. Claire Nouvian, est-ce que vous avez l'impression qu'une telle étude est de nature à clore les débats? Ça y est, on va passer à autre chose. Maintenant, les choses sont dites, ou ça n'est qu'une étude parmi tant d'autres?
Alors le problème qu'on a, c'est d'abord on a un problème parce que c'est la France qui mène le blocage au niveau européen depuis 3 ans au minimum. La Commission européenne a proposé une réforme assez radicale du règlement qui encadre la pêche en eau profonde. Et en 2012, on a un règlement, une proposition qui était vraiment volontaire et qui proposait justement d'interdire le chalutage profond au-delà. En tout cas d'une certaine profondeur à déterminer. Et en fait aujourd'hui, on se rend compte que les discussions sont noyées au niveau du Conseil des ministres européens par la France. Le vote du Parlement européen, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en décembre 2013, ce vote a été raté. C'est-à-dire que le Parlement s'est prononcé en faveur du maintien de la pêche en eau profonde et du chalutage profond à cause de la délégation française menée par les socialistes. Donc vous voyez, la France a vraiment mené un jeu absolument terrible. Donc les pays qui ont, pour des raisons uniquement politiques, envie de bloquer le sujet, ne vont pas écouter la science. Ça ne va pas être nouveau. Par contre, les pays qui sont... Évidemment, proactifs, progressistes, comme le bloc nordique, l'Allemagne, les Scandinaves et le Royaume-Uni, eux, évidemment, vont s'emparer de cette étude.
Axel Villard.
Oui, Philippe Curie, vous parliez de cette étude et de l'aspect économique de l'étude. Quelles ont été les conclusions économiques de ce travail des chercheurs écossais?
Ben, les conclusions économiques, ils ont pris les captures, les captures qu'ils ont faites à partir de ces 600 mètres, ils ont pondéré chaque capture et puis ils ont vu le ratio entre ce qui était rejeté à la mer versus ce qui était conservé et commercialisé. Et on s'aperçoit que à partir de 600 mètres, on capture surtout ces espèces qui sont rejetées et qui sont importantes pour la biodiversité, donc les raies, les requins, et que donc cette valeur commerciale elle s'effondre. Alors
oui, autrement dit, ça détruit la biodiversité et en plus financièrement c'est une erreur. Économiquement, c'est pas très porteur.
Voilà, exactement. Et c'est donc un non-sens, je dirais, à la fois économique et de préservation de la biodiversité. Mmh. On est quand même dans le cadre de la directive cadre européenne qui nous impose, à juste titre, de protéger la biodiversité dans le milieu marin. Mmh. Donc voilà. Donc il y avait, je le disais, ces discussions sur le monde profond, ces 600 mètres. Voilà, on a des arguments à la fois économiques et à la fois de protection de la biodiversité qui devrait faire évoluer, nous l'espérons, les discussions.
Je voulais aussi revenir sur une autre étude passée presque inaperçue cet été. Elle pourrait avoir de l'importance également dans cette année du climat. Claire Nouvian, ce sont des chercheurs anglais, hein, cette fois, qui se sont rendus compte que les poissons des eaux profondes participaient activement à la fixation du CO2 dans les océans. Donc, autrement dit, c'est une des solutions possibles pour essayer d'amoindrir ces accumulations de CO2 dans l'atmosphère.
Oui, alors ça aussi, c'est vous savez, on a toujours un problème avec toute cette question de la séquestration du CO2, parce que faire des calculs, voilà, et pouvoir mettre une valeur économique sur tous ces services écosystémiques qui sont rendus par la nature, c'est toujours compliqué. Ça a été fait, et donc des chercheurs anglais de Southampton, Clive Truman et son équipe, ont montré que les poissons profonds, qui sont justement ceux qui sont ciblés par les navires français, notamment ceux d'Intermarché, au large de l'Écosse, de l'Irlande, sont des poissons qui ne migrent pas forcément verticalement, c'est-à-dire mais ils se nourrissent d'animaux qui migrent verticalement. Alors c'est quoi la migration verticale ? C'est que tous les soirs, toutes les nuits dans les océans, les animaux changent d'étage. Parce que quand on vit à une certaine profondeur, on a de toute façon un intérêt à aller vers la surface où il y a de la production de nourriture grâce à l'énergie solaire. Et du coup, ces animaux qui migrent, qui font du up and down, quoi, qui font en haut, en bas, ils font l'ascenseur, et les poissons profonds, eux, les capturent. Et donc, ils séquestrent du carbone. Et donc, c'est un million de tonnes de carbone qui sont séquestrées comme ça par les poissons profonds, gratuitement, s'ils nous rendent un service. Qu'il nous faudrait évidemment des dizaines de millions d'euros pour substituer en créant des usines de captation de carbone.
On arrive déjà à la fin de cette petite discussion. Peut-être une conclusion tout de même. Est-ce que ces deux études vont dans le bon sens ? Est-ce que vous vous sentez porté par ces études pour mener votre combat, Claire Nouvian ?
Porté, oui, bien sûr. Et puis surtout porté parce que, heureusement, je n'œuvre pas qu'au niveau français, parce que c'est la déprime absolue quand même de travailler sur cette question en France. Enfin, ça donne juste envie de pleurer sur le niveau de connivence entre les lobbies bretons industriels de la pêche, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'avenir, et le gouvernement français qui, pour des raisons seulement électorales, parce que la présidence de la région Bretagne doit revenir aux socialistes dans leur carte électorale, et on sait que Jean-Yves Le Drian ne s'est pas caché qu'il allait se présenter au régional. Donc on voit bien que le lobby breton est à l'œuvre au niveau du gouvernement français. Je pense que Ségolène Royal est intimement convaincue que tout ça n'a absolument aucun sens. On a oublié de dire que la pêche était subventionnée. Donc non seulement elle détruit des richesses naturelles, mais en plus c'est nous qui payons pour tout ça. Donc merci. Donc évidemment qu'elle en est convaincue, mais je pense qu'il y a un petit peu de pression au niveau du seul point de vue électoral, ce qui quand même... Quand on est à une ère comme ça de majeure de décisions à prendre pour une transition écologique avec la COP21 qui va se tenir à Paris, on a une mesure concrète qui ne coûte rien à personne et qui ramène de l'argent aux caisses de l'État pour en pavant l'avenir, on va dire, de bonnes intentions. Mais on se rend compte que voilà, un petit lobby breton et hop, l'affaire part complètement aux oubliettes.
Merci Claire Nouvian et Philippe Curie de nous avoir éclairés sur ces nouvelles recherches. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, c'est la fin d'Ebola au Libéria. L'un des États les plus touchés par l'épidémie est enfin débarrassé du virus. L'Organisation mondiale de la santé a annoncé hier la fin de la transmission d'Ebola dans le pays après une période de 42 jours sans nouveaux cas. On rappelle qu'au Libéria, l'épidémie a fait près de 4800 morts sur environ 10600 cas. Mais il ne faut pas baisser la garde. Le Libéria, entre dans une période de haute vigilance de 90 jours. C'est ce qu'a ajouté l'OMS. La poussière des fermes limiterait l'asthme et les allergies, selon une étude menée par des chercheurs européens. Les enfants qui grandissent à la ferme seraient moins sujets à ces problèmes grâce à une protéine baptisée A20. La poussière rendrait la muqueuse des voies respiratoires moins réactive aux allergènes. Après avoir exposé des souris à de la poussière prélevée dans des fermes allemandes et suisses, les chercheurs révèlent qu'elles deviennent rapidement protégées contre l'allergie aux acariens, allergie la plus courante chez l'homme. Néandertal avait l'eau chaude à la maison. Des fouilles archéologiques de l'Abri Romani en Catalogne nous livrent les petits secrets du confort de notre cousin préhistorique éteint il y a environ 40 000 ans. L'homme de Néandertal creusait un récipient à même le sol et entourait le foyer et les pierres. Il jetait ses pierres brûlantes dans l'eau pour la chauffer, puis la gardait à température. On ne sait pas, en revanche, si la cuvette était utilisée pour faire la cuisine ou pour la toilette.